Priorité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des traitements de l'alcoolisme et particulièrement d'un nouvel essai thérapeutique sur l'utilisation du baclofène avec le professeur Philippe Jory, qui est addictologue, professeur de médecine générale à l'Université Paris-Descartes, avec également le docteur Pascal Gache, qui est un médecin interniste alcoologue installé à Genève. Il est ancien médecin responsable de l'unité d'alcoolologie des hôpitaux universitaires de Genève. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Professeur Philippe Jory, juste avant les informations, vous réagissiez au témoignage de Caroline qui, je l'ai dit, elle a commencé à boire à 21 ans. Elle a d'abord été anorexique et boulimique. Et vous dites justement, apparemment, comme le dit le docteur Pascal Gache, que ce baclofène peut être intéressant aussi sur ce type de pathologie.
Alors, j'ai beaucoup de patients en addictologie depuis plus de 30 ans. Et quand même, on voit bien le parcours de beaucoup de ces patients, même rétrospectivement. Mais là, ça a été prospectivement pour mes patients, du commencement, surtout pour les femmes, d'ailleurs, d'anorexie boulimie à l'adolescence. Et puis l'héroïne qui est arrivée, qui a soigné l'anorexie, mais qu'à soigner de façon superficielle, bien sûr, le fond il est toujours là, mais en tout cas, elle n'était plus anorexique quand elle prenait de l'héroïne. Et puis, l'arrêt de l'héroïne avec des traitements ou sans traitement, 9 fois sur 10, il y a l'alcool qui arrive. Et l'alcool, eh ben maintenant, on a le baclofène, et on se rend compte...
Mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas grand-chose.
Non, on n'avait rien du tout.
Enfin,
on avait, si on avait des médicaments, mais qui ne faisaient pas beaucoup mieux que le placebo. Donc c'était quand même, il faut dire les choses comme elles sont. Les gens, ils faisaient des cures, comme Caroline, avec des médicaments, et bon, on avait quoi, 20% de réussite. 20%, c'est pas beaucoup.
On a Brun qui nous appelle de Bamako au Mali. Brun, bonjour.
Bonjour Claire.
Vous attendez depuis un moment pour parler, alors on vous écoute.
Ok, merci bien. Claire, en fait, je voulais vous remercier d'abord par rapport à l'émission sur l'alcool, parce que en fait, les émissions qui parlent sur l'alcool permettent à nous Africains de comprendre que l'alcoolisme est une maladie. Cela est d'autant plus important que notre société ne conçoit pas l'alcoolisme, parce que nous allons du principe que c'est soit une malédiction ou c'est une faiblesse. Donc, quand j'ai suivi l'émission par rapport au baclofène, je dois dire que j'ai effectivement fait une commande de Lurezal. Mais ici, on n'a pas souvent des produits. Donc, j'ai pu avoir du Lurezal à partir de la France. Et j'ai commencé à suivre un traitement, effectivement, progressivement. Et j'ai compris que, effectivement, mon addiction par rapport à l'alcool s'est améliorée. Donc, à un moment donné, la compulsion que j'avais à vouloir boire, c'est beaucoup abaissé. Et aussi, le désir que j'avais à boire aussi a beaucoup baissé. Mais je dois dire que quand je suis arrivé pratiquement à 30 mg par jour et qu'il fallait que je continue à 60 mg, j'ai commencé à avoir peur. Parce que, comme Caroline le disait tantôt, vous avez des acquis. Vous avez des addictologues chez vous, vous avez des gens qui sont formés en alcoolologie, mais malheureusement, ici, nous ne disposons pas de spécialistes ni en alcoolologie ni en addictologie. Et ceci étant, nous avons des problèmes parce que à un moment donné, on rentre dans l'automédication. Et cela est d'autant plus grave que si nous ne contrôlons pas effectivement les effets secondaires, il ne faut pas qu'en voulant chercher à nous sortir de quelque chose qu'on a tombé dans une source.
Et aujourd'hui, comment vous faites? Vous continuez à le prendre, ce médicament?
En fait, je continue à le prendre, mais comme je l'ai dit, arrivé à 60 mg déjà, j'ai vraiment eu peur. Surtout quand j'ai lu sur le net le problème de gravine. On disait qu'il faut avoir toujours sur soi 4 comprimés de baclofène, parce qu'à la limite, on peut tomber, je crois, dans une situation et il faudra rapidement prendre les 4 comprimés.
Alors, professeur Philippe Jory, une réaction par rapport à ce témoignage de Brun. D'abord, sur la première chose, c'est vrai qu'on n'a pas redit dans cette émission, mais qui est important à dire, c'est une maladie, l'alcoolisme.
Oui, moi je crois qu'en effet, on est tous d'accord pour dire que c'est une maladie, nous les soignants. Mais dans les représentations, des patients et de la population, ça reste encore trop souvent un vice, une tare. Et donc, dire que c'est une maladie, ça permet de déculpabiliser. Parce que finalement, les patients, moi j'appelle ça une double peine. C'est la double peine, c'est-à-dire que d'une part, ils sont en souffrance, ils trouvent un médicament qui est l'alcool, qui est un mauvais médicament, pour calmer leur souffrance. Ils ont honte, on les culpabilise, et en plus, bon, ça, je veux dire, ça va pas du tout, ça. Donc il faut absolument modifier cette représentation de la population, qu'elle soit française, qu'elle soit occidentale ou qu'elle soit africaine, visiblement. Visiblement, c'est la même. Quelle que soit la culture, finalement, c'est un vice, c'est une tare. Non, c'est une maladie, c'est une maladie, c'est une grande souffrance. Et je crois qu'il faut pas en rajouter en les accusant.
Et alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Brun, même si on peut pas faire une consultation par téléphone, mais et que c'est un peu compliqué, cette question d'automédication, dans la mesure où il n'y a pas forcément de médecin, mais c'est aussi ce qui s'est passé en France au début du baclofène. D'abord, pour le professeur Amézène, se l'est auto-administré, mais même en France, il y a beaucoup de patients qui ont un peu essayé comme ça.
Je pense que c'est pas une bonne chose, parce qu'il faut quand même un suivi médical, enfin, en tout cas, un suivi de soins. Mais c'est vrai, quand on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement. Ce que je propose, c'est que les médecins qui pourraient être intéressés, je dis pas qu'il y a que des addictologues, hein. Les médecins généralistes en France, c'est eux qui prescrivent. Ils sont pas addictologues. Les médecins généralistes suivent actuellement en France 90% des héroïnomanes qui sont sous buprénorphine ou méthadone. Donc ils sont tout à fait aptes.
C'est important de le rappeler, oui.
Oui, ils sont tout à fait aptes. La méthadone, la buprénorphine, le baclofène, c'est moins dangereux à manier que l'insuline. Il y a des médicaments comme la digitaline qui sont plus dangereux, donc il faut dédramatiser un petit
donc
peu.
Donc le conseil de Brun, c'est d'aller voir tout simplement son médecin généraliste.
Oui, et puis que son médecin se branche sur le réseau Aube à UBES, a une annexe uniquement pour les médecins, où on peut lui donner tous les conseils, on peut guider son médecin pour qu'il puisse prendre en charge son patient.
Brun, ça vous paraît possible de faire ça?
Bon, ça me paraît possible, mais le seul petit problème, c'est que même parfois, un médecin généraliste peut-être, mais le médecin généraliste, la plupart du temps, va vous dire qu'il ne comprend rien en addictologie ou en alcoolologie. Et je me dis que
mais Brun, si on lui propose de se mettre en lien avec d'autres médecins, peut-être que votre médecin sera intéressé. Donc moi, je vous conseille quand même d'aller le voir et de
sur
donner...
Sur le forum médecin de Aube, on va pouvoir l'aider, votre médecin, et éventuellement, c'est pas très compliqué, vous savez, c'est pas plus compliqué de se former pour le diabète. C'est une maladie chronique, a priori, mais en tout cas, c'est pas... Je veux dire que c'est une question... Maintenant, s'il a pas envie, c'est autre chose. C'est autre chose.
Mais en tout cas, on va mettre les coordonnées du site Aube sur notre site internet. Une réaction, docteur Pascal Gache, à ce qu'a dit Brun?
Oui, d'abord, je crois qu'effectivement, c'est quand même beaucoup plus prudent d'être suivi médicalement. Et je pense aussi qu'aux doses qu'il a indiquées, il est probablement sous-dosé par rapport à ce dont il aurait besoin pour être utilement aidé dans sa lutte contre le craving et sa maladie. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était une réaction à ce que disait Philippe Jory sur la maladie. Moi, je suis beaucoup moins optimiste que lui sur la prise de conscience ou l'acceptation par les soignants du concept de maladie autour de l'alcoolisme ou des autres addictions.
Philippe Jory dit que vous avez raison.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que vous trouvez qu'il y a encore un jugement de la part du monde médical?
Il n'y a pas un jugement. Alors, si, je crois que c'est évidemment, il faut toujours nuancer. Le risque est toujours de
tomber dans la
caricature. Ce que je vois bien, c'est que le baclofène arrive et d'un seul coup, on propose un traitement où, quand il fonctionne, il n'y a pas d'effort à faire. C'est-à-dire qu'on voit très bien, les personnes augmentent le baclofène et dans le même temps vont progressivement baisser leur consommation d'alcool sans effort. Et là, d'un seul coup, on n'est plus sur les héros malades alcooliques qui, au prix d'efforts souvent extrêmement conséquents, sont arrivés à juguler leur maladie. Parce que ce qu'on a demandé et ce qu'on demande encore souvent à nos patients, c'est des efforts héroïques. Et ceux qui réussissent, ce sont des héros. Et je suis toujours très étonné quand on dit que les alcooliques ont moins de volonté que les autres. Ça me semble être...
Exactement l'inverse.
Oui, bien sûr, parce que pour se tirer de l'alcool, il faut une détermination, un volontarisme, un engagement absolument exceptionnel. Si on ne prend pas de médicaments qui vous aident, il faut s'inscrire dans une abstinence durable, il faut changer sa manière de vivre, de penser, il faut parfois aller en psychothérapie une ou deux fois par semaine, il faut parfois prendre des médicaments, il faut parfois fréquenter des groupes d'entraide type alcoolique anonyme. Et donc ça demande un engagement vraiment, vraiment important. Et d'un seul coup, le traitement ici devient amoral, au sens qu'il n'y a plus de notion morale d'effort.
Et vous pensez que c'est pour ça qu'il a eu du mal à être prescrit ce traitement, qu'il a du mal à rentrer dans les mœurs?
Alors je pense que Un bout pourrait être constitué de ça, c'est-à-dire que il n'y a plus d'héroïsme à exiger de nos patients. En tout cas, on leur demande peut-être simplement de prendre leur traitement, de noter leur consommation, d'être vigilant pour venir au rendez-vous, mais vraiment quelque chose qui est d'une autre nature. Et bien sûr, pour, je évidemment pas dire pour tout le monde, mais probablement, il y a quelque chose là autour où le traitement va s'alléger, je l'espère. Et d'abord, souvent les malades alcooliques ont tellement d'autres soucis à régler que si on peut leur proposer d'être soulagés de leur craving sans effort, de toute façon, ils auront quand même un certain nombre d'efforts à faire pour régler leurs difficultés à être avec les autres, leurs difficultés à gérer la solitude.
Professeur Jolie, une réaction aussi, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Je suis entièrement d'accord. Ce que je veux rajouter, c'est que on l'avait écrit dans la tribune du Monde, c'est-à-dire que enfin, on va pouvoir penser, vous savez, le patient, il pense, penser P-A-N-S-E-R et penser P-E-N-S-E-R sa vie. Et tous les psychothérapeutes vous diront que quand les patients sont sous baclofène, ils peuvent enfin parler d'autre chose que de l'alcool.
Et donc entamer une thérapie.
Oui, affronter la réalité de la vie et leurs problèmes. Voilà, bon,
merci beaucoup, Brun, pour votre témoignage. On a Fanta qui nous appelle de Conakry en Guinée. Fanta, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
Nous vous écoutons.
Oui, j'abonde dans le même sens que le précédent auditeur Brun de Bamako. C'est qu'en Afrique, l'alcool ne concerne pas seulement la personne qui la consomme, mais ça affecte durement sa famille aussi, où c'est vu comme vraiment un échec de l'éducation de la part des parents. Donc, c'est un poids psychologique, physique que la famille supporte. Donc, je voudrais que vous me conseilliez sur l'attitude à tenir face à ce problème. Comment la famille doit faire pour s'en sortir, pour conseiller, pour ne pas être vraiment dans des problèmes interfamiliaires très, 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 très...
Parce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui souffre d'alcoolisme ?
Oui, beaucoup, beaucoup.
Beaucoup. Alors,
trois.
Deux, trois même, d'accord. Professeur Jory, conseil à donner à l'entourage ?
Ah, c'est très important l'entourage, pas seulement en Afrique, mais oui, dans le monde entier. La famille fait partie du problème. C'est-à-dire que la famille n'est jamais neutre, elle peut être négative, elle peut être positive, ça peut changer, mais c'est très important. On peut pas prendre en charge quelqu'un comme ça, sans s'occuper de ce qui se passe autour, aussi bien de la société que de la famille, et l'entourage est important. Alors là, je crois qu'en plus, en Guinée, c'est un pays islamiste, et donc au niveau culturel, il y a encore un plus, parce que boire dans un pays islamiste, il y a une double faute. Il y a la faute d'abord de boire, et puis de pas travailler, ou de perdre son emploi, et puis en plus, par rapport à la religion. Donc c'est vraiment un gros problème. Alors, si on peut donner un conseil, c'est qu'il n'y en a pas, mais bon, sinon on peut quand même dire que quelque part, il faut être là. Il faut prendre conscience que c'est un effort phénoménal que font les gens, qu'il y a une souffrance. Et je crois que si la famille prend conscience que c'est une souffrance, qu'ils font pas exprès de boire pour emmerder le mari ou la femme ou le frère ou la sœur, c'est déjà un premier pas. Et puis après, bah, les accompagner. La famille, voilà, c'est ça, moi je leur dis, mais soyez là. Mais essayez de ne pas être jugeant.
C'est ça qui n'est pas forcément facile. Je voudrais qu'on en vienne maintenant, professeur Jory, à l'étude que vous lancez la semaine prochaine. Alors, de quoi s'agit-il ? Comment allez-vous mener cette étude ? Sur combien de patients ? Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on manque d'études qui prouvent réellement, d'études scientifiques qui prouvent réellement l'efficacité de ce baclofène.
Alors bon, il y a l'étude préliminaire, il y a des cas, il y a des publications, mais c'est vrai que le monde scientifique, pour un nouveau médicament, enfin une nouvelle indication, exige une étude qu'on appelle de grade A, c'est-à-dire en double aveugle, randomisé, contre placebo. Alors c'est pas toujours contre placebo. Là, on en a beaucoup discuté d'ailleurs avec Olivier Amezen, pour justement pourquoi on fait contre placebo. On fait contre placebo parce que il n'y a pas de traitement de référence. Il n'y a pas de traitement de référence. Quand il n'y a pas de traitement de référence, on est obligé de faire contre placebo. Alors on va nous dire si il y a des traitements qui ont l'autorisation de mise sur le marché, mais c'est des traitements qui, ont un an, ont vraiment peu de résultats.
Oui, c'est bon.
On a un petit souci de ligne avec vous, Pascal Gage. On vous entend et vous ne nous entendez pas, donc on va juste couper votre micro, on va essayer de reprendre la ligne avec vous.
On a eu Pascal en même temps, mais bon,
voilà,
c'est
exactement.
Pas grave.
Professeur Jory, donc on continue sur cette étude. Donc on comprend bien, un placebo, c'est un médicament dans lequel il n'y a rien.
Oui, il y a rien, mais c'est pas pour ça qu'il est pas actif. Un placebo entraîne des actions importantes. On peut avoir ce qu'on appelle l'effet nocebo du placebo, c'est-à-dire qu'avec le placebo, les gens vont avoir de la somnolence. Si on leur dit qu'on peut, on risque d'être somnolent, il y en a qui vont être somnolents. Ça s'appelle l'effet de suggestion.
Alors là, vous allez suivre combien de patients dans cette étude? Et donc, ça va être moitié-moitié. Moitié va recevoir le baclofène, moitié le placebo, mais sans savoir ce qu'ils reçoivent.
Exactement. Et c'est en double aveugle parce que le médecin, il ne saura pas non plus ce qu'il donne.
D'accord.
Il n'aura pas d'influence de ce côté-là.
Alors, sur
donc
combien...
ça, c'est le top des études actuellement au point de vue scientifique.
Alors, vous démarrez cette étude donc la semaine prochaine.
Oui.
Sur combien de patients?
Alors, nos méthodologistes, et ça aussi, on nous demande pourquoi 320 patients. Alors, pour faire une étude de ce genre, il faut émettre des hypothèses. Et en fonction des hypothèses, il y a un logiciel qui nous dit il faut tant de patients. Donc l'hypothèse de base, c'est que le placebo, au bout d'un an, il y a 20% de patients qui vont bien. Ça marche dans 20% des cas, l'effet placebo. Que le baclofène, on est parti d'après les études préliminaires, sur 50% de bons résultats. On est parti sur le fait qu'on aura 30% de perdu de vue, ce qui est habituel dans les études alcool sur un an. C'est une étude sur un an parce que ce sont les recommandations de l'Agence européenne du médicament, que 3 mois, ça n'a aucun intérêt, 6 mois non plus, il faut vraiment un an. Et donc, on fait le calcul, et donc il faut 320 patients pour montrer notre hypothèse, pour démontrer notre hypothèse. 320 patients, 160 placebos et 160 produits actifs, baclofène.
Et donc, vous allez commencer à mettre sous traitement la semaine prochaine, c'est ça.
On commence l'étude dans le courant de la semaine prochaine.
Ouais. Et vous êtes combien de médecins, finalement, à suivre
cette étude? Il y a une soixantaine d'investigateurs répartis sur le territoire français qui vont donc inclure des patients volontaires, bien sûr, et qui sont au courant que c'est une étude avec un placebo. Ils vont signer. Tout est en règle, tout est signé, tout est...
Dans cette étude, vous allez chercher à montrer l'efficacité, vous l'avez dit, hein, le taux de réussite. Est-ce que vous allez aussi analyser justement cette question des effets secondaires?
L'objectif principal, c'est évidemment le succès de cette molécule, c'est-à-dire l'efficacité. Et les objectifs secondaires, ils sont nombreux. Et il y a entre autres, bien entendu, la dose. Alors c'est pas une dose optimale, c'est-à-dire ce sera une répartition des doses, parce que dans l'étude préliminaire c'est autour entre 120 et 140 mg, mais bon on va avoir des doses optimales, enfin des doses disons qui sont réparties, on va voir les doses.
C'est ça, vous allez vous adapter à chaque patient sur cette question des doses, avec quoi comme médicament, celui qui est utilisé.
Ah ben on va prendre, le patient il saura pas ce qu'il prend,
oui.
Mais on va monter. On va monter. Alors, on a une limitation, on va limiter à 300 mg, ce qui est déjà pas mal. Et puis, évidemment, un autre objectif secondaire, ce sont les effets secondaires. C'est évident que là, tout le monde attend l'étude des effets secondaires.
Alors,
c'est très surprenant, on va avoir beaucoup d'effets secondaires avec le placebo.
Oui, c'est ça, ce que vous nous dites, qui est toujours assez étonnant à savoir. Donc, dans un an, les résultats. Quelles sont les autres études qui sont menées actuellement dans le monde aussi sur ce baclofène? Je crois qu'il y a une étude aux Pays-Bas, c'est ça?
Alors, l'étude aux Pays-Bas, elle n'est pas encore déclarée sur les sites internet. Il y a un site qui s'appelle Clinical Trials, où on est obligé de déclarer les études, autrement on peut pas, ça n'a pas de valeur. Donc, c'est un site mondial, et pour l'instant, elle n'apparaît pas. Donc elle n'est pas commencée.
Donc vous êtes la seule étude qui va vraiment démarrer sur
les... A priori, étude mondiale de ce genre, oui.
Pour l'instant, donc la seule étude, bon, c'est important.
C'est cocorico pour la France, oui.
Mais oui, mais c'est bien, c'est important, c'est important comme étude. Vous êtes de nouveau avec nous, Pascal Gache?
Oui, je suis revenu.
Vous êtes revenu, formidable. C'est la magie de la technique. Une réaction par rapport à cette étude. En fait, le professeur Philippe Jory vient de nous expliquer comment allait fonctionner cette étude. J'imagine que vous savez, vous, déjà, comment ça va fonctionner. Vous en attendez beaucoup, justement, des résultats de cette étude?
Ah ben oui, on est vraiment pendu aux résultats et aux lèvres de Philippe Jory quand il donnera les résultats, parce que la méthodologie employée, à savoir l'étude randomisée en double aveugle, permettra d'éliminer un certain nombre de biais de résultats qu'on avait jusque-là. Et ça, ce sera tout à fait majeur en termes d'efficacité. Et puis, comme le vient de le rappeler Philippe Jory, la deuxième intérêt sera de connaître la nature et l'intensité, la fréquence des effets indésirables. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on relève un effet indésirable pendant un traitement de baclofène, on est absolument incapable de dire si cet effet indésirable est lié au baclofène ou est lié à un événement intercurrent qui arrive comme il arrive toujours. J'ai parlé l'autre jour un patient qui avait une éruption cutanée sur un bras. Alors il m'a dit, est-ce que c'est le baclofène? Je lui ai dit, a priori non, mais je peux ni affirmer ni affirmer quoi que ce soit puisque ça intervient pendant le traitement et je n'ai pas de moyen de comparer, tandis que quand Philippe Jory pourra nous donner les résultats de son étude, on verra la fréquence, l'incidence des effets indésirables comparés à ceux du placebo, et on pourra faire la part des choses, parce que comme l'a dit Philippe Jory, on verra aussi sous placebo, des gens qui ont de la somnolence, de la fatigue. Par exemple, les troubles des fonctions sexuelles, c'est extrêmement difficile de savoir si c'est lié au médicament, si c'est lié à un autre médicament, si c'est lié par exemple au simple sevrage ou si c'est lié à l'intoxication alcoolique depuis de nombreuses années. Donc j'espère que l'étude nous donnera des éclaircissements et peut-être même des vérités beaucoup plus tangibles.
Et pour ça, 300 personnes, ça suffit? Il n'en faudrait pas plus pour justement étudier les effets secondaires?
En tout cas, ça sera une première description et ce sera vraiment utile. Alors, bien sûr que vous savez qu'en médecine, pour pouvoir affirmer qu'un traitement est efficace, il faut une première étude qui le montre et une deuxième qui soit faite dans un autre centre avec à peu près la même méthodologie, à peu près les mêmes critères de résultats.
Donc il en faudra une deuxième derrière.
Il en faudra une deuxième pour être beaucoup plus affirmatif, oui.
Professeur Jory ?
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport aux effets secondaires, c'est l'imputabilité qui est liée au baclofène. Et en fait, il y a trois imputabilités, c'est-à-dire que ça peut être complètement indépendant, ça peut être lié au baclofène, ça peut être lié au baclofène plus alcool, parce que dans notre étude, on ne demande pas l'abstinence, on ne demande pas aux gens d'arrêter de boire, on ne va pas prendre des gens sevrés, on va les prendre dans la vraie vie, on va leur dire, voilà, vous prenez votre traitement, vous pouvez continuer à boire. Évidemment, l'objectif, c'est de pas continuer à boire pareil. Mais bon, alors l'imputabilité qui est liée à l'association alcool. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que l'arrêt de l'alcool entraîne des effets secondaires. Comme il parle des problèmes sexuels, il y a des gens qui ne peuvent avoir des rapports sexuels que sous alcool. Il y a beaucoup de gens. Et c'est sûr que quand ils arrêtent l'alcool, ils ne peuvent plus avoir de rapports sexuels. Donc c'est pas lié au baclofène, c'est lié à l'arrêt de l'alcool. Donc il va falloir qu'on fasse le tri là-dedans. Alors la deuxième étude, j'attends beaucoup évidemment de l'étude aux Pays-Bas, qui est une étude qui a à peu près la même méthodologie, donc qui est une étude qu'on appelle de grade A, de haute puissance, hein, grande puissance. Et puis il va y avoir une deuxième étude en France, menée par mon collègue Michel Reynaud, mais dans un cadre plus hospitalier. Alors que la mienne, c'est une étude ambulatoire.
C'est-à-dire chez des médecins généralistes,
oui,
comme vous
En grande partie, ce sont que des médecins généralistes, qui ne sont pas obligatoirement addictologues d'ailleurs.
Et donc finalement, il va y avoir plusieurs études en parallèle. Oui. L'objectif après, c'est aussi de... Est-ce qu'on va sortir entre guillemets un nouveau médicament ou on utilise simplement le médicament existant ?
Ça serait bien comme la buprénorphine. Quand la buprénorphine est sortie pour les héroïnomanes, ça s'appelait du temgésique, et c'était dosé à 0,2 mg, ce qui fait que j'étais obligé parfois de donner 80 comprimés par jour sur la même ordonnance. À l'époque d'ailleurs, on me traitait de dealer en blouse blanche, parce que j'osais donner ça. Or, ces 80 comprimés, ça ne fait que 2 comprimés actuellement de buprénorphine au dosage.
Donc on pourrait faire la même chose avec des doses différentes.
On peut imaginer qu'on ait des dosages beaucoup plus forts. D'ailleurs en Suisse, Pascal Gache a cette chance, mais ça il peut nous en parler parce que c'est pas obligatoirement une chance. Je sais pas, il peut nous dire ce qu'il en pense. Il a des comprimés à 25 mg.
Donc ça permet de donner moins de comprimés.
Oui.
Si vous voulez bien, je vais pas lui redonner la parole au docteur Gache parce qu'on va terminer en parlant d'un congrès sur la drépanocytose qui s'est tenu il y a quelques jours à Strasbourg.
Priorité santé sur RFI.
Et pour terminer, on va parler donc de ce 7e congrès sur la drépanocytose qui s'est tenu du 14 au 16 mai à Strasbourg. Je vous rappelle que la drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Elle reste assez méconnue. C'est une maladie du sang qui provoque des crises douloureuses intenses, une anémie grave avec un risque accru d'infection. Docteur Constant Vaudou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en recherche biomédicale à la faculté de médecine de Strasbourg. Vous êtes fondateur de l'association de lutte contre la drépanocytose. Vous avez organisé ce congrès. Alors pourquoi ce congrès ?
Alors, nous organisons ce congrès, donc comme vous avez bien dit, c'est le 7e congrès. La drépanocytose reste une maladie malheureusement méconnue, même si c'est la première hémoglobinopathie dans le monde. Donc, cela nous permet d'informer, de sensibiliser, de former aussi les gens par rapport à cette maladie.
Quels sont les progrès dans les traitements ? Parce que ce sont des choses que vous avez évoquées pendant ce congrès.
Alors, on a surtout, bien sûr, parlé de l'accès aux médicaments. Alors, le progrès au niveau des médicaments, on sait qu'il y a un médicament, l'hydroxyurée, qui est utilisé assez fréquemment maintenant, même si les résultats ne sont pas pareils d'un malade à l'autre. C'est pour l'instant le seul médicament qui est assez utilisé. Mais aussi, il y a d'autres pistes qui sont en cours. Il faut aussi penser à, par exemple, au traitement de la douleur, ce qui est difficile, surtout dans nos pays africains. Donc, on voit aussi cet aspect. Vous avez bien dit tout à l'heure que c'est une maladie qui donne beaucoup de douleurs. Et on se rend compte que cette douleur n'est pas traitée chez les malades dans nos pays. Et ça, c'est quelque chose qui est presque inacceptable.
Où en sont les recherches ? On a entendu parler de greffe.
Alors, la greffe de moelle osseuse, c'est ou du sang du cordon. C'est quelque chose qui est très important, qui est maîtrisé. Hein. On est à 95-96% de réussite, ce qui est quelque chose de très bien. La seule difficulté, c'est de trouver quelqu'un dans la fratrie qui soit compatible avec la personne qui est malade. Et puis, bon, ça reste quand même un acte assez... Ça met en jeu le pronostic vital du malade. Donc, on l'a fait toujours dans des conditions où, si le malade, ses conditions sont quand même bien altérées.
Et ça permet de guérir ?
Ça permet de guérir.
Et c'est ça qui est important. Pour la première fois, on peut parler de guérison de la drépanocytose.
On peut parler de la guérison de la drépanocytose dans le cas d'une greffe de moelle osseuse ou du sang du cordon qui marche.
Docteur Vaudot, merci beaucoup. Si vous voulez bien, on vous invitera pour la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose qui a lieu au mois de juin pour nous parler plus longuement du travail de votre association. Professeur Philippe Jory et docteur Pascal Hage, j'aimerais bien un mot de conclusion rapide sur l'utilisation du baclofène dans la lutte contre l'alcoolisme.
Oh, c'est compliqué, mais bon, je pense qu'on a vraiment une molécule qui va vraiment nous aider dans la prise en charge de nos patients, qui doit toujours être une prise en charge globale, biomédico-psychosociale, voire culturelle et spirituelle. Et ça, je me bats pour mes futurs médecins généralistes, pour vraiment qu'ils prennent les patients de cette façon-là en charge.
Docteur Pascal Gache.
L'avenir est devant nous, comme on pourrait le dire aisément. Et puis, je voudrais aussi faire un signe aux auditeurs de Suisse romande pour leur dire que dimanche soir, 20 mai, 20h, l'émission Mise au point consacrera un reportage d'une dizaine de minutes au traitement par le baclofène.
Merci justement à la Radio Suisse romande et Radio-Télévision Suisse qui nous ont permis d'établir cette liaison avec vous, docteur Pascal Gache. Philippe Jory, merci également. On vous invitera dans un an donc pour faire le bilan de cette étude. Lundi, on va parler des relations amoureuses et particulièrement de leur début. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.sante@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.